Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée un peu différée, nous nous en excusons, de notre magazine littéraire. Chaque semaine, vous le savez peut-être, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des œuvres, des auteurs et autrices que nous avons aimés. Un moment de partage en toute liberté. Alors avec moi, pour ouvrir la saison aujourd'hui, autour de cette table, toute l'équipe au complet, Cécile Holban, bonjour.
Bonjour Nadia.
Vous allez nous proposer de parler d'un livre en fin d'émission. Est-ce que vous pouvez annoncer le titre ?
Oui, il s'agit de La chouette aveugle de Sadek Hedayat.
Voilà, une émission donc en lien avec le thème que nous allons aborder avec notre invité, Thierry Gilibeuf, bonjour.
Bonjour Nadia.
Et je me tourne également vers notre invité, Yves Le Pesqueur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet devenu sujet délicat et qui pourtant est un sujet crucial, particulièrement à notre époque, mais pas seulement. L'islam et l'ordre du monde, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez aux Arcades en Beau, aux éditions Arcades en Beau, pardon, préfacé par Ghaleb Ben Cher. Alors, vous l'avez compris, ce livre porte sur un sujet dont tout le monde s'est emparé, parfois de façon très obsédante, mais qu'on connaît peu, mal. Ce livre qui s'intitule « L'islam et l'ordre du monde » est un livre donc salutaire, une somme à lire, mais aussi à consulter, une somme de 503 pages, à la hauteur donc de la complexité, de la densité, de la richesse de ce sujet trop souvent galvaudé dans les médias mainstream. Et je vous suis tout particulièrement reconnaissante, Thierry, de me l'avoir fait découvrir. L'islam, trop souvent confondu avec son avatar idéologique, né de plusieurs années d'errance géopolitique, mais aussi d'une histoire complexe, est la troisième religion monothéiste apparue au 7e siècle dans la péninsule arabique, avec laquelle cette religion garde un lien étroit, alors même qu'elle s'étend dans des géographies qui lui confèrent un visage extrêmement varié. Vous revenez, Yves Le Pasqueur, sur les circonstances dans lesquelles cette religion est rentrée dans le concert des grandes religions, je reprends votre expression en quatrième, et vous insistez tout particulièrement sur la place faite aux gens du livre, Nes El Kiteb, dans le Coran, sur la proximité avec le christianisme et le judaïsme, mais surtout sur les différences avec le christianisme, sur la dualité de ce texte à la fois poétique, politique, juridique, et sur le contact de ses adeptes et de son prophète avec, donc je le disais, les représentants des religions préexistantes, et même sur le lien avec certaines formes de polythéisme, passage particulièrement intéressant et complexe, dois-je dire, sur lequel j'aimerais que nous puissions revenir, de même que sur le lien avec le néoplatonisme, dans une approche qui parfois fait une large place au mysticisme musulman, thème trop souvent évacué dans l'approche de cette religion. Cette approche vous permet donc d'examiner tous les aspects, les plus beaux, parfois les plus complexes, d'une religion qui a fait naître non pas une, mais des civilisations artistiques, philosophiques, scientifiques, métaphysiques. Une manière de rappeler les confluences de cette religion avec l'Occident, en rappelant combien est grande l'étendue géographique et comment, en se mêlant aux cultures autochtones, elle a su se réinventer à certains moments de son histoire. Vous l'avez compris, c'est une émission qui, sans nier ce qui se joue de dramatique aujourd'hui dans l'instrumentalisation de l'islam, c'est une émission qui cherche à fuir les représentations qui accompagnent un sujet particulièrement obsédant, en France notamment, en mettant de côté les raccourcis de pensée de ceux qui promeuvent ou de ceux qui dénoncent l'islamisme et qui parfois se rejoignent dans une seule et même volonté d'occulter une religion complexe en alimentant mutuellement une même vision monolithe et purifiée du monde. Comment examiner l'héritage fécond, avec quelle méthode, nous allons en parler avec vous, Yves Le Pesqueur, et d'abord une question avant de céder la parole à Thierry. De quelle volonté est né ce livre qui est un travail de très longue haleine? Vous avez mis, je crois, plus de 50 ans à l'écrire, 50 ans de rencontres, de réflexions, et vous allez rectifier. Et c'est un livre également qui est puisé aux sources de votre connaissance du monde musulman, puisque vous avez séjourné longtemps dans des pays comme la Syrie, le Liban, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Inde, vous êtes arabisant. C'est donc avec des outils spécifiques et nécessaires que vous nous proposez cette réflexion, qui est aussi une réflexion personnelle sur l'islam.
Merci. Effectivement, c'est d'abord une réflexion personnelle. Alors, vous parliez de 50 ans, vous me disiez un tout petit peu, mais effectivement, si je compte le moment où j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la question, ça fait pas 50 ans, ça en fait 48, n'exagérons pas.
Je n'étais pas loin.
Vous étiez tout près. Je suis toujours étonné de voir que la France s'est réveillée un matin avec 60 millions d'islamologues, puisque tout le monde a des opinions extrêmement péremptoires sur cette religion sans avoir jamais rien lu. Moi, il m'a fallu 40 ans pour me dire, il serait peut-être temps d'essayer de faire la synthèse de ce que tu crois avoir compris. T'es pas encore tout à fait mûr, mais si tu attends plus, tu seras trop vieux pour le faire, ce sera parce qu'il y a lourd matériau à remuer. Donc effectivement, je crois que approcher une civilisation différente, étrangère, quoique proche, est une démarche de longue haleine. Donc mon premier projet était, je dirais, un petit peu égoïste. Il fallait faire le point sur ce que je croyais avoir compris. Ça aurait très bien pu rester dans mes tiroirs s'il ne s'était pas trouvé un héroïque éditeur pour me dire « ça m'intéresse, je l'édite, même si c'est trop gros ». La deuxième motivation, c'était tout de même que je me disais que si jamais cela était édité, ça pouvait peut-être intéresser quelqu'un. Je suis frappé par le fait que dans notre pays, en France et dans d'autres aussi, il y a une espèce d'obsession d'islam. L'islam est partout, l'islam nous fait peur, l'islam nous inquiète. Quelquefois, au contraire, mais c'est plus rare, on voit l'islam comme une sorte de promesse. Mais cette obsession ne s'accompagne d'aucun effort pour savoir de quoi on parle. Donc je me suis dit qu'après tout, un livre qui se présentait non pas comme une espèce de mini-encyclopédie de l'islam, mais comme une réflexion pour trouver un axe de cohérence, pour comprendre quel était le propre de cette religion, ça pouvait peut-être intéresser quelqu'un en France. Alors, c'était peut-être un peu optimiste. Parce que il y a parmi nos concitoyens, et y compris parmi les intellectuels français, ce que j'appellerais une véritable forme d'obscurantisme. L'obscurantisme, au vrai sens du terme, c'est quand on préfère l'ignorance à la connaissance. Et je crois que certaines personnes préfèrent continuer à ignorer ce qu'est l'islam, ce qui leur permet d'en faire l'espèce de croque-mitaine qu'ils ont envie et qu'ils ont besoin d'avoir, plutôt que de se donner la peine de lire un livre. Mais enfin, soyons optimistes, il y a quelques bons livres, et puis il y a celui-ci dont je ne sais pas s'il est bon, mais enfin qui est quand même destiné à ces potentiels lecteurs. Et dans cet esprit, donc ne pas faire une mini-encyclopédie, mais trouver un axe de compréhension, j'ai eu le souci que vous évoquiez aussi de ne rien laisser de côté, c'est-à-dire de ne pas dire l'islam c'est la loi, un certain nombre d'obligations, etc. Et puis la mystique, la philosophie, tout ça c'est à côté, c'est pas essentiel. Ou de ne pas dire non plus, comme d'autres, l'islam c'est la sublime poésie de Rumi, mais la loi et tout ça nous intéresse pas beaucoup. De ne pas dire l'islamisme contemporain, ce que vous appeliez très justement les instrumentalisations politiques de l'islam n'a rien à voir avec l'islam, mais de ne pas dire non plus c'est l'islam. C'est de relier les choses en mettant au centre ce qui est le plus haut, c'est toujours le sommet qui est au centre, c'est-à-dire la grande philosophie et la mystique qui va avec, parce que la philosophie en islam est presque toujours une philosophie mystique, en mettant à la périphérie, loin à la périphérie, les déviations contemporaines, mais en essayant de comprendre qu'est-ce qui lie l'un à l'autre. Démarche que l'on peut faire à propos de toutes les civilisations, et en particulier à propos de la civilisation européenne, où certaines folies de la modernité ont bien un rapport avec ce qui a été autrefois la vitalité de cette civilisation. C'est pour ça que je prends l'image, une image un peu physiologique, les pathologies d'un organisme ne sont pas son état normal, mais sont propres à cet organisme et révèlent ce qui est le propre de cet organisme aussi.
Oui, justement, c'est ce que moi m'intéressait beaucoup dans votre livre, Yves Le Pesqueur, c'est que de mon côté, je faisais partie des ignares avant de vous avoir lu. J'avais très peu lu sur l'islam, juste une ou deux biographies de Mahomet, c'était tout. Je n'ai pas encore lu le Coran, mais j'ai prévu de le lire un jour. Au moins, là, j'ai acheté déjà. Et votre livre aborde tous les sujets avec des angles qui sont, on en a discuté avec Nadia en amont, avec des angles qui sont totalement, qui ne sont pas les angles qu'on aborde d'habitude. On reviendra sur le néoplatonisme qui est ça. Et pour moi, la première, il y a tout ce parallèle aussi que vous faites avec la religion chrétienne qui explique les différences fondamentales sur, autour du désaccord autour de l'incarnation, sur le péché originel qui est pardonné dans l'islam, alors, contrairement au christianisme, d'où la sotériologie dans la religion christianisme, et sur la non-antériorité d'une loi pour l'islam qui doit donc s'inventer sa propre loi. Mais justement, la première chose, et je pense que c'est le premier porte d'entrée de votre livre, c'est que vous expliquez, et c'est ça là-dessus que je voudrais vous interroger, vous dites que vous vous intéressez davantage, et c'est la volonté de votre livre, de comprendre plutôt pourquoi l'islam est né plutôt que comment il est né.
Oui, tout à fait. Alors, je cite Bergson à un moment, non pas que le livre soit bergsonien, mais c'est intéressant Bergson aussi, qui dans un de ses derniers écrits, dire à peu près, ce ne sont pas les termes exacts, mais je résume, le plus sûr moyen de ne pas comprendre un philosophe, c'est d'analyser sa bibliothèque. C'est-à-dire que une pensée ne naît jamais. Ne se résume jamais aux éléments accumulés, même si ces éléments l'ont nourri, ce qui va faire cette pensée, c'est quelque chose de nouveau. Et on peut toujours, alors il y a un long passage d'une personne là-dessus, on peut toujours analyser une philosophie en y trouvant la trace de telle ou telle lecture de l'auteur, mais ce qui fait que cet auteur a sa philosophie, c'est que précisément, il s'est dégagé de cela tout en s'en nourrissant, et il s'en est dégagé parce que il avait un besoin nouveau. La naissance d'une religion, c'est un peu la même chose. Quand on explique que l'islam est né dans un milieu judéo-chrétien, au vrai sens du terme, le vrai sens du terme judéo-chrétien qu'on emploie à toutes les sauces, le judéo-christianisme, c'est un sens particulier dans l'histoire de religion, ça en a même deux, c'est d'une part le premier christianisme, le tout premier qui n'était pas encore distinct du judaïsme, qui était une secte juive en quelque sorte, et c'est d'autre part les églises du Proche-Orient, surtout anciennes, qui ont conservé un rapport très étroit avec l'Ancien Testament. Par exemple, l'église éthiopienne de nos jours encore est typiquement une église judéo-chrétienne. Donc l'islam est né dans ce monde judéo-chrétien, mais si on veut déduire ce qu'est l'islam de ses sources, eh bien on n'arrive à rien. C'est-à-dire s'il y a eu islam, c'est précisément qu'avec ses sources on a fait quelque chose. Donc il y avait un besoin. Et le pourquoi, c'est ça, le besoin. C'est à quel besoin de l'humanité répond une nouvelle religion. Elle y répond avec les outils qui sont les siens, avec les outils qu'elle va sélectionner, c'est-à-dire que dans l'héritage, on dit qu'il y a des influences, mais les influences, ça ne veut rien dire. L'influence, c'est ce qu'on prend. Et ce qu'on prend, c'est ce qui nous sert. Et ce qui nous sert, c'est ce qui répond à notre propre élan. Donc ce n'est pas une influence, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Donc l'islam naissant, comme n'importe quelle religion naissante, va se nourrir de ce qui est à sa disposition, va choisir dans ce qui est à sa disposition, mais va faire quelque quelque chose de nouveau qui va répondre à un besoin nouveau. Et alors, vous évoquiez la question du péché originel. Alors, on ne peut pas dire que dans le christianisme, le péché originel n'est pas pardonné. Certes, il sera pardonné. Mais en islam, il n'y a pas à proprement parler, Massignon le soulignait, de péché originel. Il y a effectivement un premier péché. Mais ça, on va trouver ça dans toutes les religions, on le trouve dans les religions africaines aussi, le premier péché des hommes. Mais ce péché ne change pas la nature des hommes et la nature du monde. Donc en fait, il est à l'origine de rien. Ce péché révèle que par nature, l'homme est pécheur et il n'y a pas lieu de considérer cela comme un malheur absolu. C'est dans sa nature. Il ne peut pas être autre que pécheur et par conséquent, on va considérer que ce péché ne change pas la nature de l'homme, c'est une des plus fortes affirmations du Coran, il n'y a pas de changement dans la nature humaine, et ne change pas la nature du monde. Donc le monde reste en ordre tel que Dieu l'a créé, et dans ce monde en ordre, l'homme va être appelé à se sauver de cette nature pécheresse, mais ce salut n'est pas une espèce de réparation d'un désordre créé par le péché originel. Ce désordre n'a jamais eu lieu. Il est dans l'ordre des choses que le monde soit imparfait et que l'homme y soit pécheur. Et il est dans l'ordre de l'humanité, parce qu'elle est humaine, de ne pas se contenter de cela.
Alors, ce que vous dites, ce que vous dites, Yves Le Bascar, est particulièrement intéressant parce que cela pose aussi la question du rapport du musulman au salut. Que vous abordez abondamment dans votre livre, et j'aimerais qu'on s'attarde sur cette question-là, parce que elle est indissociable du rapport au monde, mais aussi de la quête du divin. Et il me semble aussi qu'elle est indissociable d'un terme trop souvent galvaudé, ou en tout cas dont on oublie la signification première, pour ne privilégier là encore que sa signification politique, qui est le terme de djihad. C'est-à-dire, alors je vous laisse le traduire parce que c'est pas simple.
Alors effectivement, lorsque nous disions que il est naturel que l'homme soit pécheur, il y a un hadith qui est cité par Ibn Arabi qui était assez extraordinaire, qui dit si vous ne péchiez pas, Dieu vous remplacerait par une humanité qui pêche et qui lui demanderait pardon afin qu'il puisse la pardonner. C'est-à-dire que le péché lui-même est un élément de ce grand mouvement qui fait que l'univers vient de Dieu et retourne à Dieu. Et s'il n'y avait pas ce malheur, il n'y aurait pas de retour. Donc l'homme, effectivement, doit effectuer ce retour, ce qui demande un effort sur lui-même. Et cet effort sur lui-même, ça s'appelle le jihad. Le mot jihad signifie effort. On va pas faire de la grammaire arabe, mais c'est un nom d'action d'une forme intensive du verbe. Donc c'est un grand effort. Le grand effort du jihad, c'est d'abord un grand effort pour la justice, la vérité en soi et dans le monde. La justice et la vérité dans le monde, ça peut impliquer une action sociale, et cette action sociale, ça peut éventuellement être la guerre sainte ou la guerre juste. Mais ce n'est pas le sens essentiel. Et certains orientalistes qui prétendaient que le sens intérieur de jihad, ce qu'on appelle en islam le grand jihad, c'est-à-dire l'effort pour la justice et sur le bien que l'on fait d'abord sur soi-même, certains prétendaient que ce sens était apparu tardivement. Ça n'est pas possible, puisqu'il suffit de lire attentivement le Coran pour voir que le verbe jahada et le mot jihad, dans plusieurs occurrences, ont des occurrences qui n'ont absolument aucun rapport avec l'effort guerrier. Donc les musulmans n'ont pas attendu trois siècles pour lire le troisième siècle de l'Hégire pour lire le Coran. Et ce sens-là était présent dès l'origine.
Et c'est une question qui pose aussi vraiment de manière cruciale la question du rapport à la foi dans sa dualité au moins, c'est-à-dire comme promesse d'une rétribution dans le monde de l'au-delà, ou alors détaché de cette vision qui ferait de la religion une assurance sur la mort et qui au contraire mènerait vers une quête spirituelle qui alimente notamment, alors là, je prends un raccourci, mais une mystique.
Oui, bien entendu. Oui. Je pense que la mystique est toujours au cœur de toute religion, à condition de l'entendre dans un sens qui est son vrai sens. Hein. C'est-à-dire que on a tellement perdu la connaissance de choses assez élémentaires qu'aujourd'hui on va attribuer l'adjectif mystique à des choses qui sont simplement de l'ordre de la rêverie ou de phénomènes secondaires, de prémonitions et choses comme ça. La mystique, c'est pas du tout ça. C'est comme le disait l'abbé Brémond, que je cite très souvent. Donc, la mystique, c'est tout simplement se tourner vers la réalité en soi, ne pas se contenter des réalités d'apparence. Donc la mystique est un réalisme. Et la réalité en soi, dans le langage religieux, ça s'appelle Dieu. Et au cœur de toute religion, il y a ce mouvement, et ce mouvement qui n'est pas un mouvement dans le vide, il y a une forme de contact. Si vous enlevez ça de la religion, vous en faites une construction sociale, et les constructions sociales, même quand elles se donnent un air religieux, par exemple, quand on fait un baptême laïc, on voit bien que ça n'est pas une religion. Dès qu'on a enlevé la mystique, il n'y a plus de religion. Alors, vous parliez du salut. Est-ce que le salut, à titre personnel, sauver son âme, ne pas aller en enfer, et le centre de la vie religieuse, là encore, on a un petit peu oublié que dans les religions les plus anciennes, on ne se pose même pas la question du devenir après la mort. C'est une affaire qui apparaît relativement tardivement dans l'histoire humaine. Vous lisez Homère ou vous lisez Hésione, il n'est pas du tout question d'une rétribution. Donc l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de se tourner vers la réalité en soi. Même si, évidemment, ce qu'on devient, est-ce qu'on s'en perd dans le désespoir ou est-ce que au-delà de cette vie, il y a un grand espoir, n'est pas indifférent. Mais c'est pas le fond des choses. Et Rumi, il y a un texte de Rumi qui dit il y a trois sortes d'hommes. Il y a les hommes de ce bas monde, il y a les hommes de l'autre monde, c'est-à-dire ceux qui recherchent le paradis, et il y a les hommes de Dieu. C'est pas ce qui ne sont pas seulement ceux qui recherchent le paradis.
Vous êtes bien sûr à Ligre FM au fil des pages. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Vous avez choisi Yves Le Pesqueur. On va écouter, alors vous allez pardonner ma prononciation, Beati Peshkevi, pardon, de Murat Aydemir, Kutchi Erguner et Pierre Rigopoulos. Vous n'avez pas facilité les tâches.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Thank you.
Aydemir Kutsier Ergunar et Pierre Rigopoulos Beyati Pechrevi pour accueillir et poursuivre notre discussion avec Yves Le Pesqueur sur Aligre FM 93.1 à propos de son livre passionnant, érudit, très personnel mais aussi très documenté qui s'appelle L'Islam et l'ordre du monde aux éditions Arcade Ambeau. Avant cette pause musicale, Yves Le Pesqueur, nous évoquions la question du salut en islam en montrant que là encore on retrouvait deux approches, celle qui commune à beaucoup de religions fait de la foi la possibilité d'accéder à un monde meilleur, celui de l'au-delà, et puis une approche mystique qui finalement fait de l'amour de Dieu et de la quête du divin. Le fondement de du cheminement spirituel. Et en évoquant ceci dans les pages de votre livre, vous évoquez une question très importante qui est celle du statut de l'hypocrite dans le texte coranique. Est-ce qu'on pourrait y revenir avant de parler avec Thierry Gilibeuf de la question du cosmos?
Tout à fait. Alors effectivement, il est souvent question dans le Coran de l'hypocrisie et de l'hypocrite munafiq. Qu'est-ce que l'hypocrite dans le Coran? Ce n'est pas un négateur. C'est quelqu'un qui croit au révélé religieux. Mais en tout cas, c'est ainsi que je crois le comprendre, qui y voit une sorte d'intérêt personnel, c'est-à-dire que la religion est destinée à servir à ses fins. Alors, quelles peuvent être ses fins? Ce peuvent être des fins mondaines, être puissant, s'enrichir, etc. On dit que le père du premier calife Omeyyade aurait dit « Nous devenons musulmans, non pas parce que toutes ces histoires de révélation de Dieu, d'au-delà, de gens nous intéressent, mais parce que nous voulons être puissants. » Et effectivement, son fils a été calife. Alors, je ne sais pas si la citation est authentique, mais elle est parfois citée comme étant un exemple de cette déviation dès les origines de l'islam. Mais ça, c'est normal. Une religion n'est jamais entièrement fidèle à son fondateur et n'est jamais non plus entièrement infidèle à son fondateur. Donc, l'hypocrisie, ça peut être effectivement le but des buts de mondains. Mais c'est aussi, et beaucoup plus subtilement, un but moral, personnel. On veut se sentir un bon croyant. On est content de se sentir un bon croyant. Quand on pratique une religion, il est difficile d'échapper à cela. Il est difficile de se dire, ah bah tiens, j'ai jeûné pendant toute la journée du Ramadan, alors que mes copains buvaient autour de moi. J'ai fait quelque chose de bien, je suis un bon croyant, Dieu m'aime. Bon, quand on commence à se croire un bon croyant, on est mal parti. L'accent mis par le Coran dès le début sur le risque de l'hypocrisie est très important, parce que ce risque de l'hypocrisie est présent dès qu'il y a une religion centrée sur le salut personnel. C'est pour cela d'ailleurs que dans l'hérésiographie musulmane, il y a beaucoup de textes en islam sur les autres religions critiques, mais cherchant à les comprendre, et très tôt, dès le 11e siècle. Dans cette hérésiographie, les polythéistes ne sont jamais accusés d'hypocrisie. On dit qu'ils sont égarés dans leur croyance, mais on ne dit pas qu'ils sont hypocrites dans leur croyance. L'hypocrisie est propre au monothéiste, qui fait de Dieu l'instrument d'une sorte de réussite personnelle dans l'au-delà. Ce que d'ailleurs voyait très bien Simone Veil, qui en parle beaucoup aussi, et qui dit que c'est une manière de faire de Dieu une idole, mais une idole unique qui en remplace de nombreuses.
Et pour autant, pardon, le Coran est émaillé de versets qui enjoint le croyant à demander à Dieu.
Oui, rétribution. Bien entendu. Bien entendu, demander rétribution, certes, parce que ne pas demander rétribution, cela reviendrait à dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Donc ce serait une autre forme d'affirmation de soi. Et d'autre part, on en revient à cette idée d'un ordre du monde. C'est assez présent, c'est dans le Coran. La vraie félicité, elle est dans l'au-delà, mais les biens de ce monde aussi sont promis aux croyants. Ce monde n'est pas du tout condamné. Et les biens de ce monde, c'est pas forcément... Alors, ça peut nous paraître à la fois un peu terre-à-terre, parce que quand on pense aux biens de ce monde, on pense à une belle maison, à une grosse voiture. Et ça peut aussi nous paraître faux, parce qu'on sait très bien que les justes ne sont pas toujours ceux qui sont récompensés en ce monde par ce qu'on a l'habitude de considérer comme les biens de ce monde. Mais en fait, si on y réfléchit un peu, c'est très juste. Quand on recherche le bien, la justice et la vérité, on se trouve entouré de gens qui cherchent le bien, la justice et la vérité. Quand on recherche uniquement quand on est indifférent à cela, on se trouve entouré d'ambitieux qui sont indifférents à cela, et la vie que l'on mène sur Terre devient un enfer sur Terre. Donc effectivement, l'affirmation coranique réitérée que le juste est récompensé en ce monde et dans l'autre, même si l'autre est plus important, et quand on y pense un peu, c'est pas faux. Ça a une certaine réalité si on se dit que cette récompense en ce monde, ce n'est pas seulement des biens matériels, c'est de vivre une vie pleinement humaine.
Vivre comme si tu ne devais jamais mourir et te préparer à mourir comme si tu devais mourir demain.
Selon un hadith très très connu. Alors bon, il n'est pas toujours dans les recueils les plus classiques. Enfin, il n'est pas dans les recueils les plus classiques, mais ça n'a pas d'importance. L'authenticité d'un hadith tient au fait que les gens, que des musulmans y ont cru comme un hadith et l'ont répété. Celui-ci est effectivement un des plus connus. Et il, je pense, exprime très bien l'esprit de la civilisation musulmane.
Thierry Gilibeuf.
Oui, je voulais revenir sur cette dimension de la mystique musulmane dont vous parliez tout à l'heure, Yves Le Pesqueur, et je vous cite, hein, alors pas très longuement, mais tout de même. « À nouveau, nous constatons la profonde convergence entre spiritualité musulmane et spiritualité antique. » Et puis là, vous citez Émile Brayer. « Pour employer un langage qui n'est pas celui de Plotin, mais qui nous fera peut-être mieux comprendre sa pensée, notre salut n'est pas à faire, il est éternellement fait parce qu'il fait partie de l'ordre des choses. » Et vous poursuivez en disant « La mystique d'une religion cosmique, d'une religion attentive à l'ordre inaltérable de la création, sera naturellement plus préoccupée de dire cet ordre, de dire comment est bâtie la forteresse autour de sa chambre secrète, que de s'angoisser parce que la clé est égarée. » C'est pourquoi, et ça, j'aime beaucoup cette idée-là, vous dites « C'est la tonalité de la mystique musulmane, elle est singulièrement sereine. » Parce que pour vous, l'islam est davantage une religion de l'ordre cosmique, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, hein, l'islam et l'ordre du monde, qu'une religion de salut. Et vous, par ailleurs, un peu avant dans votre ouvrage, vous dites que c'est aussi un des paradoxes de la religion musulmane.
Oui, alors l'islam est religion de salut, comme tous les monothéismes. Les monothéismes sont par excellence des religions de salut, parce qu'effectivement, si c'est son salut qui importe, mieux vaut s'adresser à un seul dieu qu'à plusieurs, qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, les monothéismes ayant des dieux complexes qui disent le fonctionnement du cosmos. Mais dès que le salut est central, on s'oriente forcément vers les monothéismes. Donc l'islam, comme tout monothéisme, est religion de salut, mais c'est une religion de salut qui considérera que le salut n'est pas une manière, enfin ne consiste pas à s'arracher à une nature profondément corrompue, mais consiste précisément à voir tel qu'il est dans sa réalité et à voir et comprendre et ressentir profondément l'harmonie et l'ordre d'un cosmos qui est infiniment bon, aussi bon que peut l'être un cosmos, et qui n'a pas été altéré en quoi que ce soit par l'action de l'homme, parce qu'il est inaltérable. Il y a une très grande confiance. Il y a une confiance qui peut paraître un peu folle à notre époque, mais finalement, est-ce que ce n'est pas la peur qui est folle plus que la confiance? Dans l'islam, il y a cette très grande confiance dans le fait que le cosmos tel que Dieu l'a créé est inaltérable et que l'altérer, croire qu'on peut l'altérer, est une impiété, mais c'est aussi une illusion. Et le salut, c'est de voir cet ordre et d'y prendre sa place. Et effectivement, la mystique musulmane, de ce point de vue-là, rejoint la mystique néoplatonicienne de la fin de l'Antiquité, dont que les auteurs musulmans ont totalement adopté, enfin les philosophes musulmans ont totalement adopté comme étant leur propre bien. C'est-à-dire comme étant un mode de pensée qui leur convenait pratiquement intégralement.
Et la quête du divin passe aussi par une conception, vous l'expliquez très bien, mais j'espère ne pas m'éloigner de votre texte, qui fait de la nature, non pas perçu, dites-vous, comme dans une vision romantique, mais vraiment de la nature, plutôt une forêt de symboles, de signes à déchiffrer. D'où, sans doute, la place accordée à la quête de la fidélité à la beauté dans la poésie, dans les arts, qu'on va aborder tout à l'heure avec Thierry Gilibeuf, mais aussi d'où cette injonction à aller chercher la science là où elle se trouve.
Alors, en effet, l'idée qu'une fois encore on trouve chez Simone Weil, que je cite très souvent, que science et art sont des activités très proches, que la véritable science est un art et que le véritable art est une science, est une connaissance du monde. Cette idée est parfaitement adéquate pour comprendre ce qu'a été l'art et ce qu'a été la science dans le monde musulman. La science, alors effectivement, c'est un monde où la passion de la connaissance, de toutes les connaissances, est très vive, et cela reste, quel que soit l'état de décadence du monde musulman aujourd'hui, cela reste assez vrai en, en général. Je m'amuse. Oui, parce que mieux vaut en rire, de certaines affirmations de journalistes en France qui vous disent « Ah, les professeurs qui enseignent en banlieue ont vraiment beaucoup de mal avec des élèves d'une autre culture qui ne respectent pas l'école. » Mais s'ils ne respectent pas l'école, c'est pas parce qu'ils sont d'une autre culture, c'est parce qu'ils ont perdu la culture de leurs parents. Parce que effectivement, dans les pays dont il est question, que ce soit ceux d'Afrique ou ceux du Proche-Orient, le respect de la connaissance et de celui qui détient la connaissance est extrême. Donc il y a effectivement, d'une façon générale, une passion de la connaissance dans cette civilisation, donc le fameux hadith « chercher la science jusqu'en Chine ». Et cette passion de la connaissance s'est accompagnée aussi très tôt, enfin a pris entre autres formes très tôt, un développement de ce que nous appelons les sciences, c'est-à-dire mathématiques, sciences de la nature, etc., donc astronomie, tout cela a connu un extraordinaire développement. Le monde musulman est le monde qui est considéré jusqu'au XVIe siècle par les Européens comme la source des sciences. Et on ne peut pas dire, cependant, que ces sciences étaient une préfiguration de la science moderne, ou, comme le disent certaines personnes bien intentionnées, que les musulmans étaient en avance sur la science moderne, c'était pas une préfiguration, c'était pas être en avance, c'était une science d'une autre nature. Une science d'une autre nature parce que c'est une science qui est entièrement ordonnée à l'idée que le monde, comme vous le disiez, est un monde de symboles, est un monde devant lequel il faut s'émerveiller. On recherche l'émerveillement. La science moderne ne recherche pas l'émerveillement. Elle détruit l'émerveillement. Au contraire, hein, quand elle vous explique qu'un arbre, par la science moderne, un arbre n'est pas beau. C'est un ensemble de réactions physico-chimiques.
Hein, mais on peut s'émerveiller de ces réactions physico-chimiques aussi.
Oui, mais c'est pas scientifique de s'en émerveiller. Voilà. Donc, c'est une science qui effectivement est ordonnée à l'émerveillement devant le monde, à la recherche de la trace dans le monde d'un ordre divin et qui par conséquent est très apparentée à l'art, à la recherche de la beauté et à l'art comme symbole, mais pas symbole dans un sens dans le sens d'une plate allégorie, c'est-à-dire une chose en représentant une autre, mais symbole dans un sens beaucoup plus profond, c'est-à-dire comme ce qui, par sa nature même, fait signe à une réalité, par sa nature même, tout en étant visible, fait signe à une réalité invisible.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et depuis ce matin, 10h, si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie d'Yves Lepasqueur pour son livre paru aux éditions Arcade Ambeau, L'Islam et l'Ordre du Monde. Thierry Gilibeuf.
Ben là, vous nous offrez, Yves Lepasqueur, une formidable transition avec un chapitre qui nous a passionné, Nadia et Tayeb et moi. C'est celui sur l'art musulman qui est vraiment, dont vous dites, et je trouve que la formule est très belle, on le comprend déjà dans ce que vous venez d'expliquer, que c'est un art lumineux et que cet art qui n'est pas construit, comme je reprends votre formule, sur le fruit amer du péché originel, mais justement sur un ordre du monde qui est donné, explique aussi la présence, et vous développez tout cela, la présence des figures géométriques, reproductives, cet attachement à la nature aussi dont vous parlez, qui explique l'abondance de motifs floraux, etc. Donc il y a cette dimension lumineuse de l'art musulman est rarement mise en avant, que ce soit par ceux qui sont plutôt des réticences vis-à-vis de l'islam, ou ceux qui, au contraire, voudraient, avec un esprit bien disposé, on va dire, de bonnes intentions, en faire la promotion, quoi.
Je crois que l'art est effectivement ce qui témoigne le plus du cœur d'une civilisation. Et puis c'est aussi une pierre de touche. C'est-à-dire lorsque vous avez aujourd'hui personnes qui se réclament de façon militante et parfois agressive de l'islam, mais qui vous font construire des mosquées qui ressemblent à des halls de gare, eh bien le simple fait qu'il n'ait aucun sens esthétique prouve qu'en réalité ils sont en dehors. de la tradition spirituelle qu'ils prétendent continuer. Ce qui s'applique d'ailleurs un peu partout, c'est-à-dire un des signes les plus inquiétants du monde chrétien est l'absence de sens esthétique du clergé que relevait Léon Blois. Aussi un auteur que je cite souvent. Donc l'art, c'est effectivement essentiel. Et quand on ne connaît rien d'une civilisation ancienne et qu'on découvre ses œuvres d'art, c'est ces œuvres d'art qui nous donnent son style, c'est-à-dire qui nous fait sentir quelque chose de ce qu'a été la perception du monde par cette civilisation. Ce qu'on perçoit très bien quand on voit de l'art égyptien ou de l'art mésopotamien, même si on ne sait rien d'autre par ailleurs. Donc l'art musulman a sa tonalité propre. J'ai consacré un chapitre qui est assez court, alors qu'évidemment le sujet est gigantesque, mais j'ai essayé de le structurer en montrant que certaines de ces réalisations les plus typiques, donc effectivement les géométries, les décolleurs géométriques, les arabesques, la calligraphie, sont des réalisations d'un art qui est très peu centré sur les angoisses de l'âme humaine, mais sur l'admiration devant l'ordre même du cosmos. Et qu'est-ce qui évoque plus l'ordre que la géométrie? Il y a une espèce de beauté mathématique. Et je me souviens d'avoir guidé en Iran des mathématiciens français qui, devant les mosaïques des mosquées d'Ispahan, essayaient d'analyser le fonctionnement des symétries qu'ils auraient pu mettre en équation. Mais ils disaient, mais c'est tellement fabuleux parce qu'ils ont réussi à représenter, à mettre en image des équations tellement compliquées qu'on ne pensait pas qu'on pouvait les représenter. Donc il y a effectivement un rapport, là on touche le rapport effectivement entre art et science, c'est-à-dire la beauté n'est pas une beauté angoissée ou romantique ou expressionniste, c'est une sorte de sérénité, là encore, face à la beauté de la nature, c'est-à-dire de l'univers. La beauté de la nature est finalement ce que Dieu nous donne à connaître de lui-même. La beauté de la nature, soit dans cette liberté de mouvement des arabesques qui évoquent les plantes, soit dans ce qui nous entoure, parce que ce qui nous entoure, c'est aussi de la géométrie. Le monde est géométrique. Le monde est fait de rapports qui sont des rapports mathématiques, d'une certaine façon, et géométriques. Et l'art musulman qui est... Oleg Grabar dit que c'est le seul grand art où les motifs géométriques ne sont pas une décoration accessoire, mais sont centraux. Enfin, jouent un rôle central, essentiel, même si c'est pas le seul, même s'ils ne sont pas les seuls. Ces motifs géométriques sont là parce que effectivement ils expriment parfaitement l'idée d'une, ou c'est même pas l'idée, c'est la perception d'un monde organisé en ordre, avec un ordre lumineux.
Et c'est Oleg Grabar aussi, je crois, que vous reprenez dans votre livre, Yves Lepasqueur, et qui parle d'images écrites, je crois, pour la calligraphie, qui est au cœur du décor islamique et qui est le support, souvent indéchiffrable, paradoxalement, de la méditation et de la spiritualité pour le croyant, qui, comme pour d'ailleurs celui qui visite une mosquée, simplement en visiteur. L'arabesque, est-ce que elle a aussi cette dimension de l'infini, puisque je crois que c'est Victor Hugo qui disait que la beauté de l'arabesque, c'est qu'on sait où ça commence, on sait ni où ça commence ni où ça finit. Est-ce que le motif de l'arabesque et cette image aussi de cette tentative pour approcher dans notre finitude, dans notre monde fini, l'infini?
Alors l'arabesque est cela, effectivement. L'arabesque est ce qui peut se continuer indéfiniment. L'arabesque est aussi ce qui a un centre qui n'est pas visible. C'est-à-dire qu'un panneau géométrique centré, comme il y en a tant dans l'art de l'islam, on voit où est le centre. Dans l'arabesque, on ne peut pas dire qu'il y a un centre. On ne voit pas où il est. Mais si ça a un équilibre, c'est qu'il est quelque part. Sinon, il n'y aurait pas cet équilibre de la forme. L'arabesque est aussi un dynamisme sans fin, qui est le dynamisme même de la vie, mais ce dynamisme est réglé est réglée, puisque effectivement on a une arabesque qui n'est pas un simple, qui n'est pas agribouille, qui a un ordre, qui se constitue autour de centres qu'on a du mal à situer, mais qui existent. Et si cette arabesque est une calligraphie, parce que finalement la calligraphie est sous certaines de ses formes est assez analogue à l'arabesque, elle se déroule aussi. Si c'est une calligraphie, elle a un rythme qui n'est pas situable, mais qui existe. C'est-à-dire, la beauté d'une calligraphie, c'est son rythme. Mais on ne peut pas dire que le rythme est constitué par le retour d'un même motif régulièrement. Donc ça évoque parfaitement ce dynamisme de la vie qui est ordonné, mais dont l'ordre n'est pas quelque chose de figé.
Alors, il y a la beauté et puis il y a l'amour. Quelle est la place de l'amour dans l'islam ?
Ah ben comme partout, c'est essentiel.
J'ai fait une question très courte pour vous laisser tout le loisir de développer.
Non, ben ma réponse est très courte aussi. Comme partout, c'est l'essentiel. Quelle est la place de l'amour dans l'islam ? Alors je dirais que quelqu'un a souligné que je m'appuie quelquefois sur une comparaison avec le christianisme, qui n'est d'ailleurs une comparaison un petit peu faussée. C'est-à-dire que mon but est de faire comprendre l'islam, c'est pas de faire comprendre le christianisme. Donc dans le christianisme, je retiens les éléments qui font le plus fortement contraste avec l'islam. Ce n'est pas une présentation équilibrée de la religion chrétienne. Et notamment, j'ai souvent cité des exemples qui s'inspirent d'un christianisme augustinien un peu tardif, très centré sur le péché. Le christianisme n'est pas toujours comme ça, mais c'est ces aspects-là qui m'intéressaient dans le cadre de ce livre, parce que ils sont ceux qui contrastent avec l'islam où il n'y a pas cette obsession du péché, en tout cas dans l'islam classique. Pour en revenir, alors pourquoi ce petit écart ? Pour dire que l'amour, l'idée centrale de l'amour n'est précisément pas quelque chose qui fait différence entre ces deux grandes religions. L'amour de Dieu, c'est essentiel. Dieu vous aime et nous aimons Dieu. Et il y a aussi évidemment ce besoin que l'amour repose sur une figure concrète. Parce que aimer Dieu, si Dieu est une abstraction, on ne peut pas aimer une abstraction. Donc il faut une manifestation concrète. Cette manifestation concrète, ce sera ce qui est très important dans l'islam, l'amour du prophète. Les musulmans prennent très mal qu'on parle mal du prophète, forcément, parce que la relation au prophète n'est pas la relation à une autorité administrative qui a fondé la religion. C'est la relation à un être que l'on aime, les musulmans aiment le prophète. Tout en étant totalement homme, ou plus précisément parce que le prophète est totalement homme, et l'homme en soi, parce qu'il est totalement homme, il est totalement aussi image de Dieu. Et donc là, on a une image concrète qu'on peut aimer. On va trouver à côté de cet amour du prophète qui est universel en islam, on trouvera évidemment dans le chiisme l'amour des imams, qui sont l'objet de la même du même investissement, hein, et qui sont également l'objet de la même métaphysique de la réalité du prophète, qui est un thème très important dans la métaphysique musulmane. On trouvera également l'amour porté aux figures des saints, et puis chez les poètes, et pas seulement chez les poètes, l'amour de la figure aimée, qui peut être une femme, qui peut être un autre homme, on pense à Rumi et à Shams de Tabriz. Et là, il y a quelque chose qui pour nous est parfois un peu déroutant, c'est-à-dire on dit l'amour, même sous sa forme érotique, est chez les poètes musulmans le symbole de l'amour de Dieu. C'est pas le symbole, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc, aimer Dieu, c'est aimer une image de Dieu, et cette image, ça peut être le meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète, ça peut être aussi l'homme que je rencontre et qui est là devant moi. Mais il faut qu'il y ait une image pour que ce soit concret.
Dans cette médiation de l'homme ou de la femme aimée comme chemin vers l'absolu, est-ce qu'il n'y a pas un lien là aussi avec le néoplatonisme ?
Oui, aussi, bien entendu, bien entendu. Mais le néoplatonisme est aussi une philosophie où l'on dit que le mouvement du monde, le mouvement des sphères, est un mouvement d'amour. C'est l'amour de l'un avec une majuscule qui engendre tout le mouvement du monde. Mais il est le néoplatonisme antique ayant été en quelque sorte le dernier feu le dernier feu intellectuel du polythéisme, je suppose que les néoplatoniciens se tournaient vers les divinités antiques qui étaient aussi des médiations. Il faut qu'on ait quelque chose de visible, de concret.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Thank you.
À l'IGFM, au fil des pages, notre invité est Yves Le Pesqueur pour l'Islam et l'Ordre du Monde aux éditions Arcadambo. Et là, on écoutait Yahya Al-Nouno, un morceau qui s'intitule Fertash, qu'on a dû malheureusement abréger, qui est c'est un luthiste, vous nous expliquez, yéménite.
Tout à fait.
Avec un luth particulier.
Un luthiste qui pratique le style de Sana'a le plus pur, effectivement, qui utilise un luth yéménite beaucoup plus petit que le grand luth qu'on trouve au Caire ou dans la plupart des capitales du pays arabe.
Alors, on a longuement parlé, Yves Le Pesqueur, de façon très brève, voilà, de la dimension d'émerveillement, de la joie, de la luminosité qui sous-tend l'art et la science musulmane, on voudrait revenir quand même sur, on a évoqué aussi le dévoiement, enfin la mauvaise compréhension du terme de djihad aujourd'hui, et vous parlez à un moment donné, pour prendre peut-être le contrepoint de tout ce qu'on vient de dire sur l'émerveillement, vous parlez justement de la guerre à un moment donné comme fausse mystique, avec que vous raccrochez à l'hybris, justement on retombe toujours sur ce lien avec l'héritage platonicien, le néo-platonicien.
Oui, alors dans le Coran, il est assez souvent question de la guerre. En même temps, il en est question d'une manière qui est assez peu historique, c'est-à-dire on n'arrive pas à situer à quel événement historique il est clairement fait allusion. Et si on a l'impression que c'est clair, c'est parce qu'on se base sur des sources extra-coraniques et postérieures pour expliquer ce dont on parle. Mais il est assez souvent question de la guerre, ce qui se comprend d'une part parce que effectivement l'islam est né dans un contexte d'affrontement, mais aussi, je pense, plus fondamentalement parce que la guerre est une grande expérience humaine. C'est quand même la seule activité où l'homme s'attend à être tué comme issue naturelle de cette activité. Donc c'est une grande expérience humaine et par ailleurs c'est une grande expérience politique d'une certaine façon. Quand on parle de politique, c'est la guerre, c'est d'une certaine façon l'intensification la plus complète des rapports politiques. Ce qui est remarquable dans le Coran, c'est que la guerre n'est jamais exaltée ou conseillée. Elle est toujours présentée comme une nécessité. Un verset coranique définit très clairement l'attitude musulmane envers la guerre, qui est « N'agressez pas, Dieu n'aime pas les agresseurs ». Alors, ça ne veut pas dire que les musulmans ont été des petits saints tout le temps. Ça veut dire que si on se rapporte au Coran, c'est très net. Et il est également très nettement conseillé d'accepter toujours les propositions de paix. Mais par contre, de se défendre, on ne tend pas la joue gauche. Ça, c'est sûr, on ne tend pas la joue gauche. Quand on est attaqué, on se défend. Et rudement. Et on trouvera aussi, dans le Coran, des mises en garde contre, effectivement, l'hubris guerrière. Il ne faut pas se laisser aller à l'ardeur guerrière des temps de l'ignorance. C'est textuellement comme ça, les temps de l'ignorance étant les temps pré-islamiques. S'il faut se battre, on se bat. La guerre juste existe. Mais attention, on ne se laisse pas emporter par une espèce de furie guerrière où, comme vous le disiez, il y a quelque chose qui ressemble à la mystique parce que ce n'est plus le moi rationnel qui agit, mais en fait c'est une fausse mystique parce que ce n'est pas quelque chose de supérieur au moi rationnel qui agit, c'est quelque chose d'inférieur. Donc il y a à la fois dans ces propos coraniques sur la guerre, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs certaines personnes qui manifestement n'ont jamais lu le Coran disent que ce texte est plein d'appels au meurtre, on en trouve quelques-uns d'assez solides dans l'Ancien Testament mais pas dans le Coran. Il est effectivement souvent question de la guerre, de la nécessité de la faire. Il n'est jamais recommandé, tout au contraire, de se laisser aller à la fureur guerrière sans limite. Et on pourrait presque dire que le Coran cherche à poser les linéaments de ce qui pourrait être un droit de la guerre. C'est-à-dire, comment faire la guerre sans dépasser certaines limites ?
qui est très intéressant aussi parce que ce rapport au texte qui est aussi un rapport au historique à un texte qui n'est pas lui pensé par les musulmans comme historique permet de s'interroger sur les dévoiements, les dérives historiques à partir d'un texte souvent méconnu. Je le disais en introduction de cette émission, aussi bien par ceux qui pourfendent l'islam que par ceux parfois qui prétendent l'incarner et le dénaturent au mépris de son sens profond et complexe.
Alors quand on s'inquiète de certains aspects de l'islam contemporain, quelquefois, toujours dans les réactions courantes et quelque peu étonnantes, bien que courantes, que l'on trouve autour de nous, on dit mais quand même, les enfants musulmans, on leur fait lire le Coran. Bon, je pense que le mieux qu'on puisse souhaiter pour les enfants musulmans, c'est qu'on leur fasse lire le Coran, qu'on leur fasse lire vraiment le Coran, sans trop de commentaires d'abord, et ensuite qu'on leur montre comment cela a donné lieu à d'innombrables commentaires de toutes sortes.
Contradictoires parfois.
Souvent contradictoires, afin qu'ils prennent un petit peu une idée de la richesse historique de la pensée musulmane qui évidemment ne se résume pas à cette espèce d'islam appauvri qui est celui de l'islamisme contemporain et particulièrement du wahhabisme, qui est un phénomène qui n'a pas grand chose à voir avec la tradition islamique ou qui si à voir avec cette tradition islamique parce qu'il en est le dévoiement ou plus ou moins et plus précisément l'appauvrissement. Il faut bien comprendre. Je n'essaye pas dans ce livre de décrire ce qu'est l'islam contemporain. Je décris ce qu'a été la civilisation islamique. Dans un deuxième temps, par rapport à ce qu'a été la civilisation islamique, on peut situer l'islam contemporain et comprendre que le wahhabisme saoudien ou que le talibanisme afghan ne sont pas un retour au Moyen-Âge ou une continuation du Moyen-Âge, mais sont des dévoiements entièrement modernes. C'est comme le disent d'ailleurs à peu près tous les islamologues qui se sont intéressés à la question, l'islamisme, c'est une forme moderne de l'islam qui est centrée contre l'islam traditionnel et qui, comme toutes les pensées modernes, est au fond une pensée matérialiste, c'est-à-dire une pensée centrée non pas sur la beauté et l'amour, mais sur la puissance à acquérir en ce monde. Donc c'est une pensée matérialiste.
Et ce que vous dites, Yves Le Pescaire, est très intéressant aussi parce que pose la question souvent posée dans le monde musulman de l'ouverture de l'effort d'interprétation qui est aussi caractéristique de l'histoire d'une religion et de ses adeptes qui s'interrogent perpétuellement sur la manière de pratiquer sa foi en accord avec le monde et son évolution.
Alors, l'effort d'interprétation n'a jamais cessé. Hein. La fameuse fermeture des portes de l'ijtihad est un peu une légende. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de fermeture de poste de l'ijtihad. Il y a toujours eu un effort d'interprétation, y compris au plan juridique. Il est très clair d'ailleurs que la plupart des candidats, des juges religieux musulmans ne jugent pas une affaire aujourd'hui comme ils l'auraient jugé il y a un siècle. Il y a en réalité une vraie évolution en douceur, en souplesse, mais l'évolution existe. Il y a une forte capacité à s'adapter à la société. L'interprétation a toujours existé. L'interprétation est d'autant plus vivante que les gens sont vivants. C'est-à-dire le mal-être du monde musulman n'est pas une conséquence. N'est pas une conséquence de l'islam en tant que tel. Le monde musulman va mal, certes, mais tous les mondes vont mal. Le monde chinois va très mal, le monde indien va très mal, le monde européen occidental va très mal aussi. Et le monde musulman ne va pas plus mal que les autres. Donc s'il va mal, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde va mal. Ce n'est pas parce qu'il est musulman.
Merci.
C'est une formidable conclusion.
Je crois qu'on va... Oui, c'est une très belle conclusion. On va rester sur ces mots lumineux. Yves Le Pescar, en vous remerciant d'être venu ce matin au micro d'Aligre FM pour parler de ce livre salutaire par les temps qui courent, L'Islam et l'ordre du monde. C'est aux éditions...
Arcade Ambeau.
Merci, j'ai posé mes lunettes et je ne les avais plus pour déchiffrer. Cette émission, nous la dédions donc à tous nos auditeurs et particulièrement à tous ceux qui, loin des fracas du monde et des raccourcis de pensée, souhaitent vraiment trouver des lumières et échapper à l'obscurantisme et à son instrumentalisation à des fins malveillantes. Cécile Holban, c'est votre tour. Alors, je laisse Thierry Gilibert vous introduire.
Non, c'est la même, je dis la même chose. Et à vous, Cécile.
On peut faire ça dans la continuité.
Voilà.
Nadia, vous aviez évoqué avec Jean-Pierre Ferrini les grands poètes de l'âge d'or persan. Firdousi, Hafez, Omar Khayyam, Attar ou Saadi, qui sont les auteurs d'autant de chefs-d'œuvre universels que le Livre des Rois, le Divan, les Roubaïates, la Conférence des Oiseaux ou le Golestan. Si je suis fascinée par cette littérature, je suis également intriguée par ce que je pourrais appeler le cas littéraire de l'Iran, qui me rappelle celui de la Grèce. En Grèce, on a Homère, Platon, Échille, Sophocle, Aristophane, Euripide, Plutarque, et puis plus rien, ou presque, pendant des siècles. Jusqu'à l'émergence, au tournant du XXe siècle, d'auteurs comme Papadiamantis, Kazantzakis, Kavafi, Seferis, Ritsos ou Elitis. On assiste au même phénomène en Iran. Après ces immenses poètes persans entre les Xe et XIVe siècles, plus rien pendant longtemps jusqu'à l'émergence, là encore, au tournant du XXe siècle, d'une littérature iranienne moderne, avec des auteurs comme Mohammad Taghi Bahar, Simin Daneshvar, pardon pour la prononciation, Sohrab Sepehri, Farouk Farrokhzad ou Sadegh Hedayat, dont il va être question aujourd'hui. Une telle floraison littéraire n'est pas le fruit du hasard, car elle s'inscrit également dans la situation politique de l'Iran. Il est en effet important d'esquisser en quelques mots les profonds changements qui interviennent dans la société iranienne et ses cercles intellectuels pour comprendre le contexte de ce nouvel âge d'or littéraire. Entre 1906 et 1911, on assiste à la révolution constitutionnelle persane qui permettra la constitution d'un parlement et de mettre un terme au règne sans partage des Shahs Qajars. Cette transformation se traduit également par l'introduction de nouveaux contenus et par des innovations structurelles et lexicales de la poésie traditionnelle persane qui est restée comme figée dans le temps. Il ne s'agit pas forcément d'une rupture complète, aussi marquée par exemple que ce qui se passe dans le même temps en littérature ou en peinture en Europe. D'ailleurs, Sadegh Hedayat revendique l'héritage d'Omar Khayyam, qu'il considère comme son maître. Il a consacré au poète des Roubaïates un ouvrage passionnant, Les Chants d'Omar Khayyam, dans lequel il se livre à une exégèse de ses quatrains, ainsi que de ses passeurs en Occident. Et cette lecture est d'autant plus riche et personnelle qu'on peut l'interpréter comme une sorte d'autobiographie intellectuelle. Hedayat se reconnaît dans Omar Khayyam, matérialiste athée et pessimiste, mais aussi chantre de l'amour et du vin, au sujet duquel il écrit « Alors qu'il invite à la fête et à la joie, il s'arrange pour que le mot même de bonheur nous reste en travers de la gorge, car au même moment, avec mille allusions, il vous présente l'ange de la mort, le linceul, le cimetière et le néant. » Qui est Sadegh Hedayat ? Lui-même avait horreur des éléments biographiques, tant il jugeait les détails de sa vie insignifiants. À sa traductrice russe, il avait confié « Je déteste mon autobiographie autant que les réclames américaines. À qui peut servir ma date de naissance? S'il s'agit de dresser mon horoscope, ça me regarde. Pourtant, pour ne rien vous cacher, j'ai consulté maintes fois les astrologues et leurs prédictions ne m'ont jamais révélé une seule vérité. » Et si cela est destiné au public, il faudrait commencer par lui poser la question, car si je me mets en avant, j'aurai l'air de prêter une grande valeur aux détails imbéciles de ma vie. Allons au plus simple. Sadegh Hedayat est né à Téhéran le 17 février 1903 dans une famille aristocratique. Son grand-père était un éminent historien et poète, et son beau-frère sera un des premiers ministres du Shah Reza Pahlavi. Après des études au Collège Saint-Louis, un établissement catholique basé dans la capitale iranienne, il est sélectionné pour poursuivre ses études en Europe. Il entreprend d'abord des études d'ingénieur en Belgique, puis tente celles d'architecte et de dentiste à Paris. À 24 ans, il tente de se noyer dans la Marne, mais est sauvé par une petite barque de pêcheurs. Sans avoir décroché le moindre diplôme, il finit par rentrer en Iran à l'été 1930. Nourri de littérature classique persane, mais aussi de Rilke, Tchekhov, Maupassant ou Poe, qu'il a découvert en Europe, il commence à écrire. Dans le même temps, il exerce divers petits boulots dans l'administration iranienne. Hedayat se sent enfermé dans son pays, dans son travail comme dans sa vie. Une opportunité lui est donnée de tout quitter quand l'un de ses amis écrivains et vice-consul à Bombay lui propose de l'accompagner en Inde. Officiellement, pour obtenir son passeport, il déclare qu'il est embauché pour composer les dialogues d'un film farsi et démissionne de son poste au bureau technique de la Société par Action Générale de Construction. C'est au cours de ce séjour de 10 mois à Bombay qu'il va apprendre le Pahlavi ou le moyen perse et s'intéresser à la communauté zoroastrienne parsi installée en Inde de longue date. À la fin de l'année 1950, Hedayat retourne vivre à Paris, où il se suicide dans son petit appartement miséreux de la rue Championnet dans le 18e arrondissement. Au préalable, il avait pris soin de brûler dans son poêle tous ses manuscrits, puis de calfeutrer portes et fenêtres, afin de laisser agir le dioxyde de carbone. C'est là que le retrouvera 2 jours plus tard un de ses amis inquiets de ne plus avoir de nouvelles, allongé à même le sol, dans la position d'un dormeur au champ de Van Gogh. Sur les photographies, avec son visage émacié, ses lunettes et sa moustache, Hedayat ressemble à Pessoa, Cavafy ou Istrati. Mais l'auteur contemporain dont il est le plus proche, c'est bel et bien Franz Kafka. On retrouve chez lui la même noirceur, le même pessimisme grinçant. Kafka n'était pas un inconnu pour Hedayat, qui avait traduit la Métamorphose en persan après l'avoir découvert dans la traduction de Vialat. Il lui a consacré un texte, Message de Kafka, qui présente une biographie très noire de l'écrivain tchèque, aux accents implicitement autobiographiques. Et comme lui, il voulait que ses manuscrits soient détruits. Mais contrairement à Kafka, il s'en est lui-même occupé plutôt que d'en confier la charge à un ami. La Chouette aveugle a été écrit en 1937, pendant le séjour de Hedayat en Inde. Dans un premier temps, le roman est publié sous une forme ronéotypée, tirée à 50 exemplaires, d'après le manuscrit. À sa sortie en Iran, le livre fait scandale et en 2006 encore, la réédition de ses œuvres non expurgées est à nouveau interdite dans son pays. En France, La Chouette aveugle paraît 2 ans après le suicide de Hedayat. Roger Lescot, passionné de langues orientales, l'avait traduit dès 1938, mais avait dû attendre 15 ans pour l'avoir publié par Corti. Il devient une sorte de classique souterrain, adapté à de multiples reprises au cinéma, y compris par Raoul Ruiz en 1987. Je vous propose d'en écouter un court extrait.
Désormais, c'en était fait pour moi du repos. Je pris l'habitude de sortir chaque soir au coucher du soleil et de marcher des heures durant. Parfois, je me laissais enfermer au Père-Lachaise et je tournais en rond jusqu'à l'aube. Le soir de ma dernière sortie, il faisait beau pour la première fois depuis des semaines. Sans doute est-ce pour cela que j'ai marché plus longtemps. Lorsque je suis rentré, je crois bien qu'une bonne partie de la nuit s'était déjà écoulée.
रजनी पैर लगे साजन के जैसे पैर का हलवा
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
La Chouette aveugle est saluée dès sa sortie par Henri Miller, qui le range parmi ses livres de chevet, par Philippe Soupeau, qui parle à son sujet d'un chef-d'œuvre de la littérature d'hallucination, ou par André Breton, qui l'érige en classique du surréalisme, qui nous arrive comme un signe perdu dans la nuit. Il est assez difficile de décrire l'intrigue de ce roman, il n'y en a pas. Le narrateur, dans lequel il est facile de reconnaître le double de l'auteur, déclare « Ma vie à moi n'a jamais comporté qu'une seule et uniforme saison. On dirait qu'elle s'est écoulée dans une région froide, au milieu de ténèbres sans fin, cependant qu'éternellement dans mon corps, une flamme brûlait, à la chaleur de laquelle je fondais comme cire. » La virtuosité de Hedayat réside dans sa capacité à égarer son lecteur, tout en hypnotisant littéralement son attention par une écriture adoptant la technique d'un flux de conscience hallucinatoire. Le narrateur, opiomane, est enfermé dans sa chambre et raconte ce qu'il voit ou croit voir par la lucarne, tantôt aveugle, tantôt donnant sur la ville ou sur la campagne. On ne sait jamais si on est dans la vie réelle, le rêve ou bien le délire de l'opium. Il y a une perméabilité permanente entre ces trois états qui se confondent et confondent le lecteur. Cette perte de tout repère donne quelque chose de vertigineux à la lecture qui explique qu'il est impossible de s'en détacher. L'incipit du roman en donne la tonalité. Il est des plaies qui, pareilles à la lèpre, rongent l'âme lentement dans la solitude. Ce sont là des maux dont on ne peut s'ouvrir à personne. Tout le monde les range au nombre des accidents extraordinaires. Et si jamais quelqu'un les décrit par la parole ou la plume, les gens, respectueux des conceptions couramment admises, qu'ils partagent d'ailleurs eux-mêmes, s'efforcent d'accueillir son récit avec un sourire ironique. Parce que l'homme n'a pas encore trouvé de remède à ce fléau. Les seules médecines efficaces sont l'oubli que dispense le vin et la somnolence artificielle procurée par la drogue ou les stupéfiants. Les effets n'en sont hélas que passagers. Loin de se calmer définitivement, la souffrance ne tarde pas à s'exaspérer de nouveau. La confusion voulue par Hedayat est non seulement entre les différents états psychiques, mais l'embrasse également l'espace et le temps. Ainsi, sans qu'il ne semble jamais quitter sa chambre, le narrateur se retrouve dans la rue, au contact de ceux qu'il appelle la canaille au visage avide, lancé à la poursuite de l'argent et du vice, où il croise toujours les mêmes personnages insupportables, le brocanteur, le boucher, un vieillard aux multiples avatars, un gamin qui est son beau-frère, dans la maison où il vit avec sa femme qu'il surnomme la garce, parce que ce mot avait pour lui un attrait particulier, sa vieille tante, qui est la seule à trouver grâce à ses yeux, son oncle fou, dans un cimetière, où il va enterrer une mystérieuse inconnue dont les yeux l'obsèdent. Ce sont deux yeux effrayants et enchanteurs, mais aussi pleins de troubles et d'étonnement, menaçants et prometteurs, qui épouvantaient et avaient tout à la fois. Quant au temps, on semble à la fois être dans la Téhéran des années 1930 et dans l'ancienne cité de Rages détruite par les Mongols au XIIIe siècle. En réalité, Sadegh Hedayat se trouve à l'intersection de Thomas de Quincey et Xavier de Maistre. La Chouette aveugle est le croisement entre le voyage autour de ma chambre du second et les confessions d'un mangeur d'opium du premier. Chacune des deux parties du roman correspondant à l'un de ces deux textes. Peu d'auteurs sont parvenus à décrire avec autant de brio ce basculement dans le délire, qu'il soit le fait de la folie ou de la drogue. On songe au Orla, à la métamorphose ou à certains contes de Poe. Hedayat procède par la répétition de certaines images, le crochet où pendent les carcasses désossées chez le boucher, les motifs répétés que lui-même dessine sur les écritoires, qui servent à la fois de repère pour le lecteur et de point de bascule. On comprend que le roman efface encore scandale dans son pays auprès du pouvoir des mollahs que Hedayat surnomme « tête de chou ». Quand sa tante meurt, qui fut sa nounou alors qu'il se recueille devant sa dépouille où l'on a posé un Coran pour éviter que les démons n'entrent dans son corps, sa cousine, qui fut également sa sœur de lait, se jette littéralement sur lui dans une étreinte qu'il compare à celle des mandragores mâles et femelles. Ailleurs, il compare le ciel, la nuit, à un tchador percé d'innombrables étoiles brillantes. Et sur son lit de mort, il se livre à une virulente profession de foi athée. Lorsque j'étais couché dans mon lit moite, toutes ces questions perdaient leur importance. Je ne tenais plus à savoir si Dieu existe réellement ou s'il a été créé à leur propre image par les seigneurs de la terre, soucieux de confirmer leurs prérogatives sacrées afin de piller plus aisément leur sujet, projection dans les cieux d'un état de choses terrestres. Je sentais alors combien religion, foi, croyance sont choses fragiles et puériles en face de la mort. Autant de hochets à l'usage des heureux et bien portants. En regard de la terrible réalité de la mort et des affres que je traversais, ce qu'on m'avait enseigné sur les rétributions réservées à l'âme dans l'au-delà et sur le jour du jugement m'apparaissait comme un leurre insipide. Les prières que l'on m'avait apprises étaient inefficaces devant la peur de mourir. Cette chambre ressemble à celle de Grégor Samsa, celle d'un enfermement qui devient refuge par rapport au monde extérieur. La chouette aveugle est le récit d'une métamorphose reprenant les thèmes comme la gémellité, le doppelganger. La dernière scène décrit le vol de deux hannetons et le grouillement de vers minuscules sur le corps du narrateur, dont le corps projette une ombre en forme de chouette. Cet animal, Hedayat l'a représenté. Le dessin est reproduit à la fin du livre, sous la forme d'une chouette dont les yeux en spirale symbolisent l'hallucination de ce rêve dont ni l'auteur, ni lui-même, Opiumman, ni le narrateur, ni le lecteur ne semblent devoir se réveiller un jour. Je vous redonne le titre de ce livre, « La chouette aveugle » de Sadegh Hedayat, traduit du persan par Roger Lescaut, paru chez Corti en 1953. À noter qu'une nouvelle traduction par Sébastien Jallot a paru aux Belles Lettres au début de l'année, avec une introduction de Oma Kazoutian, un dossier critique et deux nouvelles inédites.
Aligre FM 93.1.
Merci Cécile à Holban. C'est le moment de conclure, mais on va passer à un entretien avec André Michel, c'est ça?
Voilà. Alors pour prolonger cette émission consacrée à l'islam et l'ordre du monde, titre du livre d'Yves Le Pesqueur, qui était notre invité ce matin depuis 10 heures, nous vous proposons d'écouter une archive des Jeudis littéraires animée pendant 42 ans par Philippe Vanini. Philippe Vanini, vous le savez peut-être, nous a quittés il y a 3 ans. Et il recevait en 1995 André Michel, professeur au Collège de France, pour un livre publié aux éditions Hermann avec des photos de Gérard de Georges, qui nous a également quittés, Islam du Golfe aux Océans. Donc je vous propose d'écouter cet entretien de 1995. Vous allez retrouver des choses en résonance avec l'échange que nous avons eu avec vous. Yves Le Pesqueur, merci infiniment.
Merci beaucoup.
D'être venu ce matin au micro d'Aligre FM pour nous parler de l'islam et de l'ordre du monde. Et nous espérons, Thierry Gilibeuf et moi-même, ainsi que Cécile Holman, que ce ne soit pas la première d'une série d'émissions en plusieurs volets consacrés à ce sujet crucial qu'il est encore une fois salutaire d'évoquer avec les bons outils. Ceux de la connaissance.
Merci beaucoup. Merci.
On écoute André Michel, au micro de Philippe Vanini, et c'était en 1995.
Aligre FM 93.1.
Vous avez aussi pris le parti de nous décrire l'islam à un moment donné de son histoire, mais tout en nous relatant aussi le mouvement qui a été celui de l'islam.
Oui, parce que depuis longtemps, là encore, je suis frappé d'une évidence. J'entends dire, et je souscris tout à fait à cette affirmation, que pour nous comprendre aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, rapide, qui va vite, nous avons besoin de nous ressourcer, de retrouver nos racines. Et qu'une bonne partie de ces racines ont été installées dans notre Moyen-Âge. Je dirais que c'est encore plus vrai pour le monde musulman. C'est vrai que là, autour de l'an 1000 que j'ai choisi pas très arbitrairement quand même, parce que c'est le moment où, dans l'histoire de l'islam, après l'époque que nous dirions arabe, puis arabo-iranienne, vient l'époque turque, et ensuite d'autres, l'époque mongole. Donc c'est une époque de grand, à la fois de grands bouleversements, de grandes fractures, mais c'est aussi une époque, autour de notre an 1000, où on peut saisir, je crois, le mieux, le monde musulman tel qu'il s'est constitué jusqu'à aujourd'hui dans quelques-unes de ses composantes fondamentales.
Est-ce qu'on peut considérer que cette époque, c'est l'apogée de l'islam ?
Oui, enfin, il y aurait plusieurs apogées. Le premier siècle de l'islam, par exemple, autour du califat omeyyade de Bagdad, puis un autre apogée au moment du califat abbasside de Bagdad, essentiellement au 8e, 9e, 10e siècle. Bon, on peut considérer aussi que l'Égypte des Mamelouks, plus tard, est une très belle période de la civilisation de l'islam, pour ne rien dire de ce qui s'est passé dans l'Espagne musulmane. Mais il est vrai que là, à ce tournant de l'an 1000, on peut saisir encore une fois une civilisation dans quelques-unes de ses racines les plus profondes.
Alors ce livre, c'est aussi un livre qui comporte de très belles photographies qui sont de Gérard de Georges. Et ce qui est aussi frappant, André Miquel, lorsqu'on regarde ces photographies, c'est qu'elles sont en fait en quelque sorte intemporelles. On sait très bien qu'elles ont été prises au XXe siècle, mais elles sont intemporelles.
Oui, c'était le pari de Georges, que je n'ai connu qu'après qu'il ait pris ses photographies, puisque le livre est né en fait d'un pari. Il s'agissait d'un livre de photographies qu'il fallait commenter. Et le problème était pour l'éditeur et pour moi-même de savoir quel type de commentaire on faisait. J'ai donc proposé un large commentaire sur ce que nous avons appelé les espaces de l'islam, depuis le ciel, jusqu'à la maison, au fleuve, à la montagne et à la science, à la fin, de façon à faire non pas des photographes présentés, des photographies commentées, mais de façon à faire un dialogue permanent entre le texte et les images. Et il est vrai, comme vous le dites très justement, que ces images de Georges sont en effet intemporelles, parce que je crois qu'on y lit la permanence d'une civilisation.
C'est vraiment très frappant. Alors vous avez choisi de commencer par le ciel, parce qu'en fait le ciel c'est aussi la notion de transcendance qui est commune à toutes les religions.
Bien sûr, parce que c'est par là que tout commence. Cette civilisation est née d'une religion. Elle est née de la révélation du Coran dans l'Arabie du 7e siècle. Alors je commence par le ciel pour une raison très simple. C'est parce qu'avant de parler de la terre, il faut savoir où elle se place. Et à cette époque, selon une vieille tradition, la terre est au centre de l'univers, comme nous dit-on le jaune dans l'œuf. Il faut donc d'abord savoir ce qui enveloppe la terre, avant de parler de la Terre elle-même. Et savoir ce qui enveloppe la Terre, c'est-à-dire la voûte céleste, c'est aussi poser le problème de la Terre dans son rapport avec le ciel et, au-delà, avec la divinité.
Un rôle très particulier pour l'islam.
Un rôle très particulier, et Coran oblige, puisque Dieu a installé les montagnes, nous dit le texte de l'islam, pour que la Terre ne tangue pas sur ses bases, comme une espèce d'immense navire dont les montagnes seraient les ancres. Donc les montagnes, à commencer par les montagnes, la Terre porte toute une symbolique, presque mystique, dirais-je.
Alors, les éléments sont très présents, les éléments naturels sont très présents dans l'islam en général. Et il y a un élément qui est fondamental, c'est l'eau. Et moi, ce qui m'a frappé dans les photographies que nous avons pu voir à travers dans cet ouvrage, c'est les mosquées qui sont construites devant une surface d'eau.
Oui, pour une raison, je crois, essentielle, c'est que la civilisation de l'islam, au moins celle, disons, de l'islam arabe et iranien et turc, s'est installée sur l'immense zone aride qui court au nord de l'équateur, bon, depuis en gros, et que nous pouvons assez bien fixer par des images, le Sahara, le grand désert iranien, les steppes d'Arabie, etc. C'est un paysage, on n'y pense pas assez, où l'eau est plus souvent enfouie que ruisselante. Bien sûr, il y a les grands fleuves, le Nil, le Tigre, l'Euphrate, etc. Mais les ruisseaux, les petites rivières en islam, sont infiniment plus rares que dans notre Europe. L'eau, il faut d'abord aller la chercher, la garder d'abord dans des citernes, mais la chercher par des puits, la capter à ses sources. Bref, elle est, et c'est un languedocien qui vous parle, un homme du calcaire qui sait combien l'eau est rare, on la trouve au bas du calcaire, sous la roche, mais pas en surface la plupart du temps. C'est un peu la même chose qui se passe là. Elle est d'autant plus magique qu'elle ne s'offre pas à la réserve des grands fleuves, qu'elle ne s'offre pas comme cela à première main.
Il y a d'ailleurs plusieurs interprétations sur la naissance de l'eau, le jaillissement de l'eau.
Oui, bien sûr. Bon, les interprétations, dont certaines d'ailleurs viennent de la Grèce, l'eau composante de la terre, et puis alors aussi des interprétations plus scientifiques, dirais-je, la circulation de l'eau, nuages, mer ou fleuve, ça passe dans la terre, ça remonte sous la forme de source, puis il y a l'évaporation, les nuages et le cycle recommence. Bien sûr, il y a toute une interrogation fondamentale sur l'eau, et c'est compréhensible.
Les animaux sont aussi très présents dans l'islam, avec là aussi une hiérarchie. Il y a des animaux qui sont, disons, plus nobles que d'autres. Bon, le chien étant, disons, en bas de la hiérarchie, lui.
Oui, il y a toute une hiérarchie, mais il me semble que le phénomène animal est plus intéressant à considérer globalement. Et c'est Brodel qui avait mis le doigt sur une évidence. C'était un peu l'œuf de Colomb, mais personne avant lui n'y avait songé. En tout cas, ne l'avait pas dit sous cette forme. Brodel parlait de ces époques de l'homme rare. Il voulait dire par là que jusqu'à quelques siècles en amont, l'homme a été largement minoritaire sur la Terre. Il est toujours sans doute. Mais dans son territoire même, celui qu'il cultive, celui qu'il possède, sa suprématie a longtemps été contestée par les bêtes. Non pas seulement par les bêtes domestiques, qu'il domestique en effet et qu'il gère, mais par toutes les bêtes sauvages. Et alors, c'est vrai que l'animal interpelle, comme on aime à le dire aujourd'hui, interpelle l'homme. Dieu a donné à l'homme l'animal pour qu'il en fasse sa nourriture, son vêtement, etc. Mais que faire de la bête sauvage? Alors, au point extrême de l'analyse, quand on tombe sur une bête qui ne sert à rien ou qui est dangereuse à l'homme, il reste encore pour l'homme une réponse possible. Cette bête me demande de réfléchir sur elle, me demande de réfléchir sur la place qu'elle tient dans la création et sur le rapport que je peux entretenir avec elle. Rapport de défense, rapport d'étude, d'examen, etc. Bref, rien n'est inutile dans la création.
Alors, il y a aussi quelque chose de très frappant dans le monde musulman. C'est à la fois un monde qui est nomade et c'est aussi un monde où les villes ont eu une importance énorme.
Oui, il est nomade, il l'a été à l'origine majoritairement en Arabie, mais c'est une idée trop conventionnelle que d'associer arabe, islam et désert. En fait, l'islam est né dans des villes, la Mecque et Médine. Et le vendredi, le jour du regroupement de la communauté des croyants, dans l'édifice de ce regroupement, ces mots « vendredi » et « mosquée » appartiennent à une racine de la langue arabe qui dit très précisément « le regroupement ». Et c'est vrai que de toutes les civilisations qu'on pourrait appeler classiques, l'islam est certainement l'un de ceux qui a été le plus grand créateur et aussi le plus grand consommateur de villes. Les créant, puis éventuellement les laissant disparaître pour en créer d'autres. Bref, en tout cas, un phénomène urbain qui est incomparablement plus important que dans nos sociétés du Moyen-Âge occidental.
Et alors, dans ces villes ont été aussi édifiées les mosquées, bien évidemment.
La mosquée est le centre, un peu comme la cathédrale l'est dans nos villes du Moyen-Âge. La mosquée cathédrale, comme on dit, et je récuse le terme parce que ça n'a rien à voir, mettons la grande mosquée, qui est en effet le lieu à la fois réel et symbolique du regroupement des croyants pour la prière du vendredi. Mais à côté de cette grande mosquée, il y en a d'autres. Il y a des oratoires de quartier. Et les textes nous parlent de plusieurs centaines de mosquées pour telle... Enfin, de plusieurs centaines de lieux de culte, disons, pour telle ou telle ville de l'islam classique.
Alors tout à l'heure, nous évoquions la notion d'apogée pour cette période de l'an 1000. Est-ce que justement, l'islam n'a pas eu sa période, disons, n'a pas vécu sa période la plus resplendissante à l'époque d'un califat qui va disparaître et qui va être quand même un épisode dramatique de la civilisation islamique?
Sans aucun doute. C'est l'histoire de cet islam classique, c'est en effet une histoire du califat, c'est-à-dire d'une autorité supérieure qui dirige la communauté des croyants et qui doit la diriger naturellement du mieux possible dans l'esprit et selon la lettre du Coran. Et en gros, pour schématiser, le premier siècle de l'islam, c'est le siècle des Arabes. C'est eux qui sont maîtres du califat, les généraux, les préfets sont arabes, etc. Ensuite, en gros, entre les années 750 et 1050, avec le califat transféré de Damas à Bagdad, c'est une époque plus, comment dirais-je, déjà plus troublée qui commence. D'abord parce qu'il y a des gens, les Iraniens, qui demandent leur juste place dans cet islam. Non pas face aux Arabes, mais au milieu du XIe siècle. où là interviennent d'autres personnages de l'islam, les Turcs, qui, eux, font main basse sur ce qu'on pourrait appeler le pouvoir temporel d'islam, ne laissant au calife de Bagdad qu'une sorte, je dirais, de, comment dis-je, de patronage spirituel. Alors déjà, l'édifice commence à craquer et il s'effondre, politiquement parlant, en 1258, lorsque d'autres nouveaux venus, les Mongols, eux, suppriment le califat. Et de cette date, 1258, date en effet une fracture fondamentale du monde musulman. En effet, depuis 1258, on ne peut plus parler de monde musulman en tant que construction politique gérée par une autorité unique.
Bien qu'à chaque fois, il y a eu des volontés politiques au cours de l'histoire d'essayer de réunir les différentes parties.
Sûr. Il y a eu de nouveau des rêves de rassemblement et des tentatives de rassemblement autour, je dirais par exemple, des sultans turcs ottomans installés à Istanbul qui ont voulu reprendre pour eux le rôle de califat. Il y a eu la tentative de restauration du califat avec les mamelouks d'Égypte, mais je dirais très simplement qu'après 1258, plus personne fondamentalement n'y a cru. Mais le rêve est toujours latent. Et je dirais simplement, pour conclure là-dessus, que lorsque est apparu le grand mouvement réformiste musulman de la fin du XIXe siècle, la restauration, le thème de la restauration éventuelle du califat a été un des thèmes majeurs de cette réflexion.
André Michel, ne touche-t-on pas là à un des points fondamentaux justement pour la compréhension de l'islam et peut-être aussi qui évoque sa complexité, c'est-à-dire de, à la fois d'avoir quelque chose qui relève de l'unité et de la très très grande dispersion?
Oui, mais après tout, c'est le lot de toutes les grandes civilisations. Si on parle de l'Europe, je laisse les États-Unis de côté, gardons l'Europe. Si on parle de l'Europe comme une civilisation d'inspiration à la fois gréco-romaine, judéo-chrétienne, et il faudrait y ajouter, on les oublie trop souvent, en mon sens, les Lumières quand même, bon, cette Europe a une sorte d'unité, on la voit se chercher politiquement aujourd'hui, en tout cas une sorte d'une unité culturelle et peut-être spirituelle incontestable, et en même temps une prodigieuse diversité. Je dirais que pour l'islam, c'est un peu la même chose. Il y a des cultures différentes, des langages différents, des ethnies différentes, il y a même des pratiques différentes, sinon des islams différents, du moins des façons de pratiquer l'islam différentes, depuis celui d'Afrique noire jusqu'à l'islam arabe, en allant jusqu'à l'islam indonésien, en passant par l'islam turc. Bien. Alors, c'est vrai que cette civilisation, mon Dieu, comme les autres, tourne autour de ces deux thèmes, de ces deux réalités. Une aspiration à ce qui peut rassembler, dont les symboles les plus parlants seraient les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage, et de l'autre côté, des façons diverses, à travers des nations diverses, de vivre cet héritage commun.
Alors cette diversité, c'est une richesse, mais est-ce que justement le regard extérieur, notre regard sur l'islam, ne tend pas à réduire cette diversité?
C'est vrai, et on a un peu trop tendance à considérer que l'islam est un tout, et souvent aussi à considérer que l'islam égale arabe, alors que les arabes sont de très loin minoritaires dans l'espace musulman et que le plus grand état musulman par sa population, c'est l'Indonésie. Bon. Alors c'est vrai que nous avons tendance trop souvent à réduire les choses à des simplifications abusives et que c'est vrai aussi, nous n'avons pas trop souvent l'occasion de méditer sur cette prodigieuse diversité du monde musulman.
Alors la diversité du monde musulman par rapport au nôtre, c'est aussi la notion de temps qui est différente, ne serait-ce que par la datation.
Oui, il y a le calendrier hégrien qui est encore pratiqué dans certains pays musulmans, pas exclusivement autant que je sache, mais je peux me tromper. Mais une façon de vivre le temps, oui. Bon, bien sûr, la plupart de ces pays sont confrontés à ce qu'il est convenu d'appeler la modernité, avec, en effet, une conception nouvelle du temps à la fois plus réglée et, j'ajouterai pour mon compte, hélas, souvent trop rapide. Mais Il est vrai que pour un musulman convaincu, le temps, c'est d'abord le temps que Dieu impartit à la vie des hommes, et que pour un musulman convaincu, il n'y a pas de temps véritable si ce temps ne fait pas la place à la méditation, sous la forme de la prière ou d'autres méditations. Mais mon collègue et ami Jacques Berck a beaucoup insisté dans ses livres sur ce que pourrait, en effet, nous apporter ce monde de l'islam si nous consentions à mieux le connaître. En effet, peut-être un peu plus de sagesse vis-à-vis de la vie qui passe, un peu plus de sentiment de l'instant, un peu plus de temps laissé à la réflexion, à goûter le temps, à en faire quelque chose de vivant et de productif. Vous savez, les latins avaient ce vieux mot, c'est un vieux souvenir qui me remonte en mémoire, ce vieux mot de « neg osium » et d'osium, enfin les deux mots. L'osium, c'était le temps du loisir, et ce que nous appelons le négoce aujourd'hui, le négocium, la négation de l'osium, c'était en effet tout ce qui allait contre le loisir, mais le loisir bien compris, le loisir fructueux, le loisir intelligent. C'est peut-être un peu cela, cette nouvelle capture ou captation du temps, comme vous voudrez, ou une nouvelle manière de réfléchir et de savourer le temps, qu'entre autres choses pourrait nous apporter l'étude de civilisation autre que la nôtre.
André Michel, ce livre, qui est un très beau livre, me semble moi très utile dans la conjoncture actuelle. C'est-à-dire au moment où on perçoit des fractures entre le monde islamique et notre monde occidental, on s'aperçoit finalement que les complémentarités peuvent exister et que notamment il y a un terme qui est à la fin de votre ouvrage et qui est celui du partenariat. Et c'est un souhait de votre part.
Oui, c'est un terme auquel je tiens beaucoup et que j'ai amené, si j'ai bonne mémoire, ou en tout cas je pourrais le dire ici. Quel jugement porter sur cette civilisation de l'islam classique ? C'est incontestablement l'une des civilisations qui a été le plus capable de penser qu'en dans ces hautes époques, 700, 1000 après Jésus-Christ, un pouvoir politique, inspiré lui-même par une religion, acceptait que d'autres gens pratiquent une religion différente de celle du pouvoir. Bon, il y a eu bien sûr des incidents, il y a eu des bavures, comme nous dirions aujourd'hui, mais dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a pas eu de pogrom, il n'y a pas eu de poursuite systématique de gens parce qu'ils appartenaient à une religion différente. Alors, on me dira, et on aura raison, que cette tolérance, elle vient du pouvoir. Elle est un acte octroyé par le pouvoir. Et qu'aujourd'hui, moi, je n'ai rien à faire de la tolérance. Je n'ai pas à me dire qu'on me permet de pratiquer telle ou telle religion. On doit simplement prendre en compte le fait que je pratique telle ou telle religion et que je ne demande qu'une chose, c'est que d'autres, ou que j'accepte en tout cas, que d'autres pratiquent une religion, relèvent d'idéologies différentes de la mienne, à la condition en effet que tout cela fasse un dialogue, ou comme vous le disiez, comme je l'ai écrit en effet à la fin de ce livre, un partenariat. Moi je n'ai jamais été de ceux qui disaient que pour se comprendre, il fallait rejoindre l'autre. Rejoindre, oui, mais à condition que les différences soient acceptées de part et d'autre. Quelqu'un un jour me disait qu'il y avait entre l'islam et la chrétienté, il n'y avait guère de différence, qu'il n'y avait pas de différence plus grande qu'entre la rainure qui séparait deux parquets. Et je répondais qu'il y avait entre l'islam et la chrétienté un abîme qui s'appelait la divinité de Jésus-Christ, et que le problème était pour les musulmans d'essayer de comprendre pourquoi le chrétien acceptait la divinité de Jésus-Christ, et à l'inverse pour le chrétien de comprendre pourquoi, pour un musulman, c'est quelque chose de monstrueux que de réduire Dieu à une condition d'homme. À partir du moment où chacun comprend les raisons de l'autre, on peut, je crois, en effet, être partenaire.
André Michel, vous qui êtes un des meilleurs observateurs de l'islam, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui par rapport à certains événements qui se produisent dans les pays islamiques ?
Bien sûr, comment ne le serais-je pas ? Je le serais d'autant plus que l'islam dont je parle, et qui, Dieu merci, reste quand même celui d'une énorme majorité de musulmans, il faut quand même le dire. Je veux dire un islam qui a sa place dans le monde et qui admet que d'autres y aient aussi leur place. Bon. Donc je le suis d'autant plus qu'en effet, moi, le visage de l'islam que j'aime, que je connais à travers... Bon, je dirais la majorité des musulmans d'aujourd'hui, c'est celui-là. Et que l'autre visage dont on parle, et j'allais ajouter, dont on parle seul, parce qu'il y en a d'autres, ce visage-là, moi vraiment, je ne le reconnais pas à travers les études que j'ai faites de cette civilisation.
Il y a d'ailleurs un paradoxe que vous mettez en relief dans ce livre, c'est-à-dire que l'islam a toujours tendance à regarder vers la source historique. Et effectivement, si on regarde vers la source historique, on s'aperçoit qu'on a affaire à un islam qui est une vraie civilisation dans le sens de l'ouverture, dans le sens du partenariat, et c'est là où on ne comprend pas trop.
Oui, parce que je crois que le problème revient à ceci. Il y a eu au départ un homme, Mohammed, celui que nous appelons Mahomet, un texte sacré, le Coran, et un premier état musulman autour du prophète et de ses compagnons, à Médine. Bien, ils ont, le Coran, le prophète, les compagnons, ont installé un type de société à une certaine époque, dans un certain pays qui s'appelait l'Arabie. Ensuite, cette civilisation, je regarde, moi, l'histoire, je ne parle pas en l'air, que je sache, cette civilisation, par la force des choses, a évolué, à Damas d'abord, à Bagdad ensuite, et jusqu'à aujourd'hui. Elle a évolué en tentant de concilier le monde, l'histoire du monde telle qu'elle va, et dont personne ne peut faire l'économie, et la fidélité au principe. Et le problème, je crois, il me semble que si j'étais musulman aujourd'hui, la question que je me poserais serait la suivante. Est-ce que ma fidélité à l'islam étant absolument hors de cause, où est cette fidélité? Est-ce qu'elle est dans une fidélité à la lettre de ce qui s'est fait au 7e siècle en Arabie, ou à l'esprit dans lequel les premiers musulmans ont installé leur religion et leur civilisation dans le monde? Je crois que c'est comme cela qu'il faut voir le problème.
Alors, on parle d'inquiétude. Est-ce qu'il y a des espoirs aussi? Est-ce que on voit des lueurs, des rayons de soleil qui peuvent nous conforter?
Par tempérament, je suis plutôt optimiste et je crois qu'il faut l'être. Mais j'en reviens à quelque chose que j'ai dit plusieurs fois et quelquefois la grande surprise de ce qui m'est goûté. Je crois qu'on n'aura rien fait pour... disons, d'abord, ce qui nous intéresse, pour les pays des rivages sud de la Méditerranée, si nous ne les aidons pas d'abord à être heureux. C'est-à-dire, si nous n'acceptons pas qu'une partie de notre produit, PNB ou autre, peu importe, une partie de notre richesse aille d'abord à eux pour les aider à installer sur place la société dont ils rêvent et qui finalement est la société de tous les hommes, à savoir être libre chez soi, avoir du travail, y avoir des familles, avoir une famille et être heureux. À partir de là, je crois, les choses iront mieux. Mais dans la mesure où on se désintéresse de ce monde, il n'est pas étonnant que ce monde, si on le laisse se replier sur lui-même, en arrive en effet à des attitudes de repli.
André Michel, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour ce moment de sagesse et de lucidité sur quand même un des éléments les plus importants de l'histoire mondiale contemporaine, parce qu'il faut parler de plus en plus de mondialisation. Et je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à votre très beau livre qui vient de paraître aux éditions Hermann et qui s'intitule « Du Golfe aux océans, l'islam » avec des photographies de Gérard De Georges. Merci André Michel.
Voilà, vous venez de l'entendre sur Allegre FM. André Michel était au micro de Philippe Vanini en 1995. C'était à l'occasion de la sortie d'un beau livre, Islam du Golfe à l'océan, publié avec la collaboration de Gérard De Georges, immense photographe. Ces trois hommes nous ont quittés et nous manquent, mais ils sont parmi nous ce matin par la magie du micro, dans l'enregistrement et des voix chères qui se sont tues mais qui restent là, bien vivantes. Cette archive était destinée à prolonger le moment que nous avons passé avec Yves Le Pesqueur depuis ce matin 10h pour son livre paru aux éditions Arcades en beau, j'ai bien dit.
Tout à fait. Je ne suis pas latin de naissance, mais d'après ce que j'ai appris du latin, c'est comme ça que ça se dit.
L'islam et l'ordre du monde. Vous avez également entendu dans cette émission la très belle chronique de Cécile Holban sur la chouette aveugle de Sedak et Dayat. L'émission arrive à son terme. Il est 11h55 sur Aligre FM. Un grand merci à Enrico Mastrogiovanni qui était aujourd'hui à la réalisation. Merci Thierry Gilibeuf de m'avoir accueilli dans cette première émission. On se retrouve la semaine prochaine donc pour prolonger ce dialogue très, très riche avec vous, Yves Le Pesqueur, puisque vous nous avez fait l'amitié d'accepter de notre invitation. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Restez à l'écoute de nos programmes sur Aligre FM 93.1. À la semaine prochaine.
Écoutez Aligre FM 93.1.